Ordegit. Ne désespérons pas, j'apprendrai bien les rites. On s'habitue à tout. T'as rien, je suis à vous.
Je fais un genre. ton lit, dur dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Les couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineuse, la solution à cœur. C'est ça la médecine, je veux faire la guillotine. C'est ça la médecine, je veux faire la guillotine. C'est ça la médecine, je veux faire la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, nous recevons, pour faire un petit tour de l'actualité concernant la psychiatrie, André Bitton du CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action, à qui j'ouvre le micro, parce que... Voilà, je pense.
T'as un retour ?
Oui, c'est bon.
Bon, d'accord. Le CRPA, voyons, Cercle de Réflexion, Proposition d'Action sur la Psychiatrie.
C'est cela, oui.
Oui, bon.
Et donc, un tour d'actualité. On va parler de l'unité, l'UMD, Unité pour Malades Difficiles Moraux du Centre Hospitalier de Cadillac. On va parler... donc de la dégradation continue dans la Sarthe, le PSM dans la Sarthe, avec l'épuisement de médecins aux urgences. On va parler de la maltraitance en psychiatrie et aussi de la sortie d'un livre écrit par un soignant dont on parle assez souvent ici, Mathieu Bellassène. Bonjour André.
Oui, bonjour. Alors, attends, je me sers. Oui, bonjour. Alors, tout d'abord, j'annonce que notre prochaine conférence débat aura lieu samedi 7 octobre, 14h à la GK, avec trois exposés de Mme Céline Le Tailleur, ancienne initiatrice, ancienne patiente, initiatrice qui a été initiatrice du COFORT de Marseille, le centre de rétablissement, et qui a comme coordinatrice, et qui va nous exposer une théorie sur l'infériorisation systématique, hein, finalement, le problème des minorités, en lien finalement avec son expérience. Hein. Alors, premièrement. Deuxièmement, puisque c'est quand même important que des gens qui ont fait de la psychiatrie, qui ont une certaine expérience, en tirent quelque chose, en tirent en face une théorie et fassent valoir leur point de vue, aussi bien pratique que généraliste. Ensuite, il y aura un exposé, la présentation par Mathieu Bellassène de son bouquin qui sort après-demain aux éditions Libertalia, qui sont c'est un éditeur libertaire encore. Voilà. Donc sur l'abolition de la contention. Et l'intérêt de ce bouquin, c'est que Mathieu, le docteur Bellassène, a commencé son livre par toute une série de témoignages de personnes ayant connu l'isolement et la contention. C'est-à-dire le point de vue des intéressés, paf, en tête. Et ça c'est vraiment très important sur le point de vue qui nous intéresse. Et enfin, je continuerai ce que j'ai fait la précédente fois, un exposé sur la très difficile émergence de la prise de parole autonome des personnes concernées, des personnes psychiatrisées, à travers l'expérience du groupe Information Asile, en revenant plus précisément sur cette période de la mi-temps des années 70, où la libération de la parole commence à se verrouiller, et où finalement, ces messieurs, dames, les soignants, la psychiatrie, l'antipsychiatrie à la mode, marginalisation du groupe Information Asile, verrouillage du terrain, carriérisme, et finalement, ce tournant des années 80, où avec l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, il va y avoir un gel là-dessus, un étouffoir, et où finalement, on va avoir les uns les autres contre nous, les antipsychiatres de la belle époque reconvertis. parce qu'on veut les avoir, on va les avoir comme adversaires, de fait, que ce soit sur une nuance ou une autre, sauf quelques-uns qui soit ont quitté leur fonction, soit sont passés dans le privé, ou restent très en retrait. D'ailleurs, à la fin des années 80, je pense que Philippe Bernardet disait très bien, lui qui était leader historique du groupe Information Asile, les malades mentaux, etc., ça intéresse personne. Bon, maintenant, on en est, à propos que ça intéresse personne, que le contentieux de l'internement psychiatrique est devenu un contentieux de masse avec la judiciarisation des internements, la judiciarisation des maintiens en isolement contention, qui est un contentieux très doux jour de Raymond Depardon. Cela fait 115 000 décisions judiciaires par an, ce qui est énorme. Mmh. Ça veut dire que c'est un des principaux contentieux, c'est le principal contentieux en matière civile, et c'est un des contentieux de masse les plus fournis de France. Voilà. Donc, en tout cas, c'est le principal contentieux civil. À telle enseigne qu'auparavant, les divorces étaient une matière très prolifique en matière de contentieux. Vous mariez, donc vous divorcez. Mmh. D'accord. Pour les éternels célibataires comme moi, c'est parfait. Bon, dégagez des obliques des 20 ans, donc c'est parfait. Tandis que là, avant, vous étiez interné, vous ne pouviez vraiment pas vous défendre. Et si vous entendiez vous défendre, vous étiez un paranoïaque quirulant. Maintenant, vous êtes interné et mis en isolement contention. Vous avez droit à un juge. Ben alors, c'est pour vous faire taper, massacrer, etc. à la sauge du jour. Il ne reste pas moins que le droit de l'internement psychiatrique a explosé. Mieux que progresser. C'est devenu un droit à part entière. Donc voilà, on parle. Donc finalement, cet étouffoir de la fin des années 70 jusqu'au début des années 2010, et c'est aussi une traduction concrète du côté des anciens antipsychiatres de cette honte de la psychiatrie française, de cette déliquescence, de ce naufrage de la psychiatrie française. Parce qu'à peu près tout le monde s'y est mis, je veux dire. Bon, alors maintenant, on peut toujours soutenir, c'est la thèse libertaire, la psychiatrie, on peut s'en passer, oui, ça, tous ceux qui peuvent s'en passer, ils vont bien s'en passer, c'est clair. Donc voilà, donc on a ça, donc le bouquin de Mathieu Bellassène a une nette importance, parce que Mathieu Bellassène est quand même très médiatisé. Quant à l'utilité de ces séminaires, c'est toujours celle-là, que des personnes, connaissant la psychiatrie, ayant fait de la psychiatrie ou faisant de la psychiatrie, qui s'aventurent, qui vont sur les chemins de la père aidance, un titre ou un autre, qui soit se destinent à devenir des pères aidants professionnalisés, puisque maintenant on embauche à tour de bras ou de façon bénévole, ou à rentrer dans le circuit des groupes d'antenne mutuelle, etc., puissent trouver un lieu où l'on puisse parler entre nous, développer nos idées avec un ensemble de professionnels avec qui on est d'accord, mais en autonomie. Et que si d'entre nous, des gens ont développé des théories, ont des idées générales à partir d'une expérience, alors que ça se sache et que les gens puissent le faire valoir. Bon. Donc alors, je repasse donc alors à une nouvelle qu'on a eue à partir d'un billet de blog du 15 août 2023. Un comité de soutien, le collectif UMD de Cadillac sur Garonne, en Gironde, en danger, lance une alerte. L'ARS Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, a décidé de fermer l'unité Moreau de l'unité pour maladies difficiles Cadillac sur Garonne, où il y a trois unités, au 30 septembre 2023. Et là, tac, là c'est le fait qu'ils n'ont plus assez de personnel pour faire tourner, hein. Donc les gens refusent d'embaucher là-dedans, hein. Et les politiques de rationalisation. Et en parallèle, le 3 juillet, par décision du tribunal des conflits du 3 juillet 2023, le tribunal des conflits orientait le contentieux de la levée d'internement en mesure de soins, décision du repentant de l'État en unité pour maladie difficile, quand les gens demandent un transfert, en tout cas, ou une levée carrée et nette, ou même contestent leur admission, vers le juge judiciaire, ouvrant une voie de contentieux qui n'était pas ouverte jusque-là. Puisque dans l'affaire Romain Dupuis, le tueur de Pau de décembre 2004, à propos de cette affaire, à propos de laquelle il y avait eu la réforme Dati de l'irresponsabilité pénale de 2008, bien, alors que M. Romain Dupuis, son conseil, sa famille, etc., s'était battu précisément pour obtenir un transfert de l'UMD de Cadillac sur Garonne vers une unité classique et que personne ne voulait de lui, n'est-ce pas ? Bien. Il avait été transféré brièvement une dizaine de jours à l'usible de Cadillac sur Garonne, mais il était maltraité. Bien. Et où donc ce conflit désormais aboutit à ce qu'il y a une compétence organisée du juge judiciaire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus lui dire qu'il n'y a pas de juge, déclaration d'incompétence, etc. Donc ça veut dire que l'ARS elle-même organise le transfert de M. Romain Dupuis en dehors de l'UMD Moreau, comme de ses camarades, ils sont 18 je crois, à partir du 30 septembre 2023 par une décision, de fermeture. Alors maintenant, on en est à ce que le naufrage de la psychiatrie est tel qu'une ARS, alors que tout le monde s'est battu, ils sont tous battus les uns les autres pour qu'il y ait plus de lits sécuritaires, de lits carcéraux, ferme une des trois unités d'une UMD. Alors c'est très, très... Alors, je lis ce communiqué parce que franchement, on est dans une situation qui est passablement paradoxale et très grave. C'est vraiment très grave. Alors, l'Agence régionale de santé de la Gironde, dont c'est Aquitaine, vient de décider la fermeture de 19 lits d'une unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Cadillac, alors même qu'il existe des alternatives pour éviter cette fermeture fixée le 30 septembre 2023. Le collectif UMD de Cadillac en danger s'oppose à cette fermeture et vous explique pourquoi. Les internés de l'UMD Moreau autour de Romain Dupuis ont protesté contre les carences en personnel et l'insécurité quotidienne dans laquelle ils se trouvaient. C'est-à-dire qu'ils s'étaient mis en solidarité avec le syndicat, le syndicat des hospitaliers. Alors, le soignant en question s'exprime ici au nom du collectif UMD Cadillac en danger. Nous exerçons en tant que soignants au sein de l'unité pour malades difficiles de Cadillac sur Garonne, dans le département de la Gironde. Elle a été ouverte dans les années 50 et nous souhaitons informer le public sur la situation critique dans laquelle nous nous trouvons. L'unité du MD Moreau du centre hospitalier de Cadillac risque de fermer au mois de septembre 2023, ce qui équivaut à une diminution de lits de 19 lits du MD sur le territoire national. Il y en a un peu moins de 600, des lits du MD. L'application de la loi RIST sur les contractuels intérimaires. Bien, réduire la quantité, le nombre des intérimaires et surtout leur pairie. Parce que des soignants intérimaires arrivaient à négocier leur salaire à un montant scandaleux. Tout simplement scandaleux. Alors même qu'ils arrivent en intérim, qu'ils ne connaissent pas le lieu, qu'ils ne connaissent pas les patients, etc. Donc l'application de la loi RIST adoptée en avril 2023 qui vise à plafonner le revenu des médecins intérimaires a accéléré la chute en cours de l'hôpital public. En effet, cette loi a été appliquée sans que ses effets en soient mesurés et sans aucun accompagnement de la part des ARS partout sur le territoire, des unités fermes une à une. Cette mesure favorise les établissements privés qui ne sont pas soumis aux mêmes règles et de fait subissent moins la pénurie médicale en cours. On peut déplorer que certains praticiens s'inscrivent dans une forme de mercenariat qui consiste à se ranger du côté du plus offrant, mais cette pratique est une réalité avec laquelle nous devons composer. Il est important que la population soit consciente du décalage entre la parole politique qui dit prendre à bras le corps la question sécuritaire et la réalité. En effet, lors de chaque fait divers tragique, la classe politico-médiatique s'émeut d'un ensauvagement de la société, d'une violence qui serait le fruit d'un écroulement de l'autorité de l'État. Mais tous font fi du rôle clé de la psychiatrie publique dans le bon fonctionnement d'une société. Une étude démontre qu'au moins 36% des personnes incarcérées présentent au moins une maladie psychiatrique de gravité marquée à sévère. Et malgré ce constat, de nombreux détenus relevant du secteur psychiatrique ne bénéficient d'aucune prise en charge spécifique. Lorsque le 19 juin 2023, à Bordeaux, un homme de 29 ans a agressé en pleine rue une septuagénaire et sa petite fille, le traitement de l'information, média, s'est focalisé sur l'émergence d'une nouvelle forme de violence décomplexée. Les racines de ce fait divers semblent pourtant plus complexes. L'agresseur en question était porteur et porteur d'une pathologie psychiatrique lourde avec un passé judiciaire chargé. Sans domicile fixe au moment des faits, il était en rupture de traitement. Comment est-il possible qu'une personne hospitalisée à maintes reprises en psychiatrie et connue pour son potentiel de dangerosité n'ait pas bénéficié d'un suivi régulier à l'extérieur avec l'éventualité d'une réintégration d'office en unité psychiatrique en cas d'arrêt de son traitement ? Certainement, car la psychiatrie publique ne dispose pas de moyens financiers et humains pour assurer des suites de patients qui en ont cruellement besoin. Et tant que la classe dirigeante continuera à effacer la psychiatrie de la carte du soin, ces événements se multiplieront dans le temps. Dans un contexte de faits divers récurrents, Bordeaux, Annecy, impliquant la tuerie de Reims, impliquant des personnes nécessitant une prise en charge dans les unités sécurisées que sont les UMD, la réponse du ministère de la Santé consiste donc actuellement à fermer 19 lits d'UMD en Aquitaine. Drôle de logique. Alors, d'autant plus que la démographie de la Gironde est dynamique et que le centre hospitalier psychiatrique de Charles Perrin, situé à Bordeaux, déjà en difficulté, ne sera pas en capacité d'absorber cet afflux de patients à venir. Les unités pour maladies difficiles sont un des maillons essentiels du bon fonctionnement de la psychiatrie. Ce sont des services hospitaliers psychiatriques spécialisés dans la prise en charge de patients qui ne peuvent pas ou plus être pris en charge dans les services d'hospitalisation psychiatrique classique. À l'unité Moreau, les soignants font de leur mieux pour accompagner des patients dans un milieu contenant et structurant et font en sorte d'adapter leur prise en charge en fonction de l'évolution du patient. L'unité Moreau s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire expérimentée, psychologue, ergothérapeute, infirmière, soignants à SH, médecins généralistes. L'équipe soignante propose aux patients de nombreuses activités. Voilà, ils ont au moins des activités à la fois conviviales et thérapeutiques et une volonté commune d'humaniser le soin. Les patients de l'unité Moron ont envoyé un courrier à la direction en exprimant leurs inquiétudes et leur souhait de rester dans un lieu de soins géré par une équipe avec laquelle ils souhaitent continuer leur prise en charge. Nonobstant notre travail d'utilité publique, l'ARS de la Gironde vient de cautionner la fermeture de 19 lits d'unités pour maladies difficiles sans chercher à trouver d'alternatives, alors que nous avons proposé des solutions concrètes et applicables pour éviter ce marasme. Et pourtant, les demandes d'admission pour l'UMD de Cadillac affluent de toute la France. Il ne s'agit donc pas d'un problème lié à une diminution de la demande, mais bien d'une volonté de diminuer l'offre. Bien. De plus, nous ne manquons pas de personnel paramédical sur le pôle unité PML, psychiatrie médico-légale. Notre pôle reste très attractif. De nombreux soignants venus de la France expriment encore le souhait de venir travailler au sein de l'UMD. Les postes vacants sont rapidement pourvus. Ah, ça, ils nous l'apprennent. Donc moi, je pensais que c'était plutôt pénurique, mais non, ils disent que non. Au contraire, ils sont demandés. Le CH de Cadillac est composé d'un site central avec des unités de mission de long et moyen séjour qui est séparé géographiquement du site où se trouve l'UMD. Le site central du CH Cadillac souffre quant à lui d'un manque chronique de personnel soignant, 50 postes d'infirmiers à pourvoir, dont 25 pour des arrêts maladie. Donc, ce n'est pas l'UMD qui manque de personnel au plan des demandes d'emploi, des gens demandent à bosser dedans, c'est le CH Cadillac lui-même. L'UMD étant à l'intérieur, enfin, dans le CH, enfin au sein du CH géographique, enfin bon, au plan de la tutelle, avec une séparation géographique, mais c'est le même site. Donc cette fermeture annoncée vise donc à redéployer les soignants de l'unité Moreau sur d'autres unités de l'hôpital psychiatrique de Cadillac pour pallier au manque de personnel. Donc on sacrifie l'unité Moreau pour avoir plus de personnel sur le restant de l'hôpital de Cadillac. Notre expertise, notre expérience et notre intérêt toujours intact pour la spécificité du travail en unité pour maladies difficiles n'ont jamais été entendus par la direction de l'hôpital. La direction exécute les ordres des ARS. Lorsque, ça c'est ça, hein, les directeurs d'hôpitaux maintenant sont désignés par les directeurs d'ARS. Hein. Lorsque nous leur avons souligné que cette mobilité forcée aurait pour effet que la quasi-totalité des soignants quitterait le centre hospitalier, la direction nous a répondu qu'elle ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Toutes nos revendications et propositions alternatives ont été balayées d'un revers de la main. Pourtant, nous avons proposé de répartir les 19 lits à supprimer temporairement sur l'ensemble des 4 unités du MD. L'unité Moreau aurait ainsi fermé temporairement 7 lits et les autres unités 4 lits. Moreau étant actuellement une unité avec des patients en courte stabilisation, ça aurait permis un suivi médical moins resserré. C'est-à-dire, l'unité Moreau, c'est l'unité la moins carcérale de l'UMD Cadillac. C'est une unité long séjour, quoi. De plus, une autre de nos propositions consistait à accueillir des patients stabilisés des autres unités du UMD, toujours dans le but de libérer du temps aux 2 psychiatres exerçant sur le pôle, 2 psychiatres seulement, quand même, et d'éviter une fermeture en attendant le recrutement de nouveaux psychiatres. Nous sommes habitués depuis longtemps aux techniques managériales issues du monde de l'entreprise. On travaille à flux tendu, standardisation des processus, recherche de performances financières. Mais si l'on rajoute à cela une direction qui a recours à une surutilisation du pouvoir disciplinaire, du pouvoir d'organisation et du lien de subordination, notre environnement de travail devient de plus en plus pathogène. c'est-à-dire que nous aussi, les soignants, on en devient malade, hein, avec des conséquences néfastes sur notre santé. Nous ne sommes cependant pas la seule unité psychiatrique dédiée aux patients dits difficiles à se retrouver dans une situation dramatique. Alors, au centre hospitalier de Vinatier, où ils ont tout, hein, ils ont l'UMD, l'UHSA, au Vinatier, ils ont tout. 200 lits ont fermé depuis 2020. Les plannings et les rythmes de travail sont constamment modifiés, les arrêts de travail se multiplient. Pour combler le manque de personnel, des soignants remplaçants sans expérience au sein d'unités pour maladies difficiles sont mobilisés avec pour conséquence une augmentation de la dangerosité des accidents de travail. Donc, il faut voir ce que ça fait. Quand on est interné long cours, moi je sais, puisque je suis resté quand même plus de 2 ans, il est très important d'avoir des références fixes avec des personnels qu'on connaît. C'est très important parce qu'on nous telle habitude, on sait que si telle personne va prendre son poste, on va pouvoir parler avec telle personne et pas telle autre. Et quand ça change tout le temps, hein, c'est vraiment très ennuyeux. Donc à l'UMD de Montfavet, 84, donc dans le Vaucluse, les conditions de travail se détériorent depuis plusieurs années avec un manque de personnel soignant et médical. Les prises en charge deviennent logiquement de plus en plus compliquées à assurer dans de bonnes conditions. Les USIP, unités de soins intensifs en psychiatrie, ont pour vocation d'accueillir des patients qui présentent des troubles du comportement majeurs, ne sont pas en reste. L'USIP de Pau, 64, a fermé 7 lits sur les 14 qu'elle comptait du fait d'un manque de personnel, hein, cette fois. C'est-à-dire les gens ne veulent pas embaucher. Et l'USIP du centre hospitalier du pays des Gurandes, qui alors là, c'est une véritable bastille, c'est assez terrifiant, hein, en Corrèze, a fermé, j'ai regardé les photos du site, c'est effrayant, hein. C'est à flanc de falaise, carrément, un truc perdu, il n'y a pas de transport en commun. A fermé début juillet 2023, 10 lits pour travaux, mais sans date de réouverture définitive. Les patients que nous prenons en charge souffrent d'une instabilité sur le plan psychique qui doit être contrebalancée par la permanence des soins. Mais le turnover et le manque de personnel ne sont pas de nature à apporter l'équilibre dont ils ont besoin. Ça, Romain Dupuis, dans la pétition qu'il avait fait signer de ses autres copavillonnaires, l'avait souligné, hein, puisque là, lui, il est là-dedans depuis 2005. Donc, depuis le début de l'année 2023, et plus particulièrement depuis l'adoption de la loi RIST, plusieurs centaines de lits de secteur psychiatrique ont été fermés, certains définitivement, d'autres de façon ponctuelle. Un effet cliquet se produit. L'effet cliquet, c'est non-reversibilité. Lors de ces fermetures provisoires, rendant les réouvertures peu probables, nous assistons à une attaque sans précédent dans le secteur de la santé mentale et de la santé en général. La destruction généralisée est en cours. Là où le gouvernement devrait déclarer l'état d'urgence pour sauver ce qu'il reste de la psychiatrie publique, rien ne se passe. Le collectif UMD Cadillac en danger refuse la fatalité et se bat pour empêcher la fermeture de l'unité Moreau, qui nous semble injustifiée et qui peut encore être empêchée. Heureusement, nous pouvons compter sur le soutien des syndicats de plusieurs élus pour nous aider à mener ce combat difficile. En effet, Nathalie Delattre, personnalité politique de premier plan, vice-présidente du Sénat, sénatrice de la Gironde, nous apporte une aide précieuse en interpellant le ministre de la Santé à propos de la fermeture injustifiée de l'unité Moreau. Alors, n'hésitez pas à relayer cette information pour nous donner de la visibilité et de la force. Le collectif UMD en danger. Après, suit des références légales qui correspondent aux anciennes législations et qui ne sont pas à l'ordre du jour. On voit que les personnels là sont restés fixes sur les législations d'avant 2000. Mais bon, voilà. Donc, on assiste finalement à une américanisation. C'est une américanisation. Alors là, c'est là qu'on voit et que la question se pose, et le débat est ouvert entre nous, les abolitionnistes, ceux qui sont sur la ligne abolition des soins sans consentement. Eh bien, là, on a un exemple. On ferme des unités, les gens en question vont se retrouver balancer ce qui arrive sur des profils médicaux légaux. Les magistrats vont avoir tendance à les envoyer sur l'incarcération.
Oui.
Donc ça pose problème.
Ça pose problème, bien sûr. Il faudrait qu'une vision dans une société où il n'y a ni hôpitaux psychiatriques, ni prison, d'ailleurs.
Mais ça, c'est la société.
Mais c'est une utopie, oui, je suis d'accord.
C'est la société utopique.
Voilà. Évidemment. Peut-être qu'il est possible aussi d'installer quelque chose qui ressemble à des soins avec consentement aussi.
Oui, évidemment. Alors, plus directement, on en est là parce qu'on assiste aussi en parallèle à une déchéance du soin des prises en charge de proximité.
Bah là, oui, de toute façon, au niveau, on a tendance à concentrer sur des pôles, aller vers une privatisation et une diminution du service public.
Oui, puisque finalement, les gens, parce que, quand, par exemple, sur le PCM de la Sarthe, c'est clair, l'alerte qu'ils ont lancée, c'est que, vu la saturation du service d'urgence à l'Aulne, vu le manque de personnel, les gens ne veulent plus embaucher, vu les restructurations, ils n'admettent plus que les gens en soient sans consentement. Point. Encore, moi je trouve qu'ils devraient être radicaux et faire une grève des admissions. Mais il faut savoir qu'une grève des admissions des mesures de soins sans consentement, c'est des arrêtés de réquisition qui tombent, les forces de l'ordre prennent la main avec l'armée. C'est tout. C'est terminé, puisque, je veux dire, si c'est des arrêtés préfectoraux qui sont, voilà, encore, vous voyez, donc c'est pas simple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on assiste d'une part à la fin de l'ancienne période où le service libre était possible, on pouvait demander des soins en admission libre avec la régularisation comme hospitalisation de droit commun de l'hospitalisation libre par la loi de 90. Le régime dérogatoire placement libre n'était plus en place. Et d'autre part, même et y compris au fait que des unités soins sans consentement sont en cours de démantèlement. Bon, ben voilà. Bon. Alors, donc, l'alerte, donc, la psychiatrie, alors je lis une dépêche de Spimedia du 3 août, la psychiatrie se dégrade encore dans la Sarthe avec l'épuisement des médecins aux urgences. Alors, c'est pas seulement les urgences, hein, il y a un sas d'arrivée en urgence, et puis après, c'est les unités elles-mêmes. C'est un système qui s'écroule dans la Sarthe. Au lit fermé s'ajoutent désormais les arrêts pour épuisement des médecins aux urgences du Mans. Les psychiatres du département dénoncent une dégradation perpétuelle de l'offre de soins. Dans la Sarthe, la situation ne fait qu'empirer pour les patients nécessitant des prises en charge en psychiatrie. Une alerte a été lancée dans une tribune du 28 juillet par les médecins psychiatres, médecins généralistes et pharmaciens de l'établissement public de santé mentale EPSM de la Sarthe, qui a été délocalisé en banlieue sur Alaune, du Mans. Depuis sa parution, le système a continué à se dégrader, témoigne la docteure Violaine Pio-Gloria, chef de pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et vice-présidente de la commission médicale d'établissement CME de l'EPSM. La conséquence, selon elle, d'un manque de réactivité dans les réponses dont les psychiatres avaient besoin. Les trois collègues psychiatres qui travaillent sur les urgences sont en arrêt depuis mardi. Ça devient donc extrêmement compliqué. Les soignants se mettent d'eux-mêmes en arrêt maladie. Je ne sais pas s'ils peuvent se décerner eux-mêmes des arrêts maladie. Je vais demander à mon toubib. Ouais. Bon. L'un des médecins, ils peuvent se prescrire à eux-mêmes.
D'accord.
Voilà, mais bon. L'un des médecins est encore présent, mais sera en arrêt à partir du 4 août. Le renfort exceptionnel d'un médecin libéral est en cours de réflexion, le temps qu'un système s'organise en appui avec le CHU d'Angers, Maine-et-Loire, mais celui-ci ne sera opérationnel que le 7 août. À partir du 4 août au soir, il n'y aura donc plus de psychiatres aux urgences du Mans pour évaluer les patients, reste seul les infirmiers. Cette collaboration se met en place au pied du mur. Ce sont des arrêts de travail par épuisement qui ouvrent la possibilité d'une aide d'hospitalisation en région et d'un soutien pour les évaluations et l'accueil des patients en urgence avec le CHU d'Angers, déplore le médecin. Bonjour. Un système épuisé. L'ARS Pays de la Loire a adopté fin juin un plan d'urgence pour sécuriser les prises en charge en psychiatrie. La situation de l'EPSM de la Sarthe étant un exemple parmi d'autres des difficultés rencontrées par les établissements ligériens. À l'ARS, ils font ce qu'ils peuvent. Ce n'est sûrement pas si facile de mobiliser les ressources lorsque chacun fait ce qu'il peut dans son département, souligne la vice-présidente de la CME. Le plan d'urgence a ainsi pu maintenir certaines situations en ambulatoire, mais visiblement, ce n'est pas suffisant. De son côté, la direction cherche également des solutions tant que possible. Violaine Pio-Gloria estime que la Sarthe paye une politique de santé extrêmement restrictive entre 2010 et 2020. Le département manquait déjà de médecins psychiatres pendant cette période. Il y a des systèmes de pénurie partout, mais avec des possibilités d'aménagement qui n'existent plus dans la Sarthe, car nous avons utilisé ces organisations potentialisées il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, il n'y a plus de système et on en arrive à des situations où un médecin se retrouve avec la responsabilité de deux ou trois structures tout seul. L'été 2022 a déjà été très compliqué. Le PSM a pu bénéficier d'un peu d'aide en région sur certaines périodes et l'établissement a pu passer la période tendue avec l'effectif médical qui existait alors. Depuis, les quelques départs en retraite et les effets de la loi sur l'intérêt médical sont autant d'effectifs en moins qui ne permettent plus à l'EPSM d'être autonome sur le département. Dégradation perpétuelle. À l'impossibilité de prendre en charge les urgences psychiatriques le week-end du 5-6 août, s'ajoute le manque de lits. 42 lits, soit l'équivalent de 3 unités d'hospitalisation, ont été fermés au moins jusqu'en septembre, faute de psychiatres. Des hôpitaux psychiatriques ont fermé des unités pendant les vacances. C'est assez spectaculaire. On n'a jamais vu une crise pareille hein, dans la psychiatrie publique, tout simplement jamais. Les médecins psychiatres, médecins généralistes et pharmaciens de l'EPSM, auteurs de la tribune, ils dénoncent le patio créé depuis plusieurs mois au CH du Mans. Ils ont créé un espace à part où les patients attendent qu'une place d'hospitalisation se libère à l'EPSM dans des conditions très difficiles. Cet été, avec un nombre de lits diminué, la situation devient insoutenable, selon cette docteure, vice-présidente de la CME, qui voit les médecins épuisés par cette situation de dégradation perpétuelle et de tri des patients. Les soins sont actuellement réservés aux patients hospitalisés sous contrainte. Tant qu'il n'y a aucun moyen de faire venir des médecins dans la Sarthe, les solutions se situent en dehors du département. Nous allons être obligés de trouver des systèmes pour hospitaliser les patients en nombre important en dehors de la Sarthe. Récemment, j'ai eu un écho d'une personne qui nous joignait d'Albi, du Tarn, qui était dans une situation, un jeune homme, une situation conflictuelle avec sa famille, il habite chez ses parents, bon, et il était habituellement demandeur aux soins. Bien. Et donc, il est tenu sous hospitalisation sous contrainte sur le ressort du Tarn depuis plus de 4 ans, avec des hospitalisations séquentielles et programmes de soins. Et quand on récapitule comment ça a été déclenché, on s'aperçoit qu'il était demandeur à une hospitalisation, parce qu'il fait habituellement des séjours de rupture, que pour carrer qu'il ait une prise en charge, on l'a placé sous soins sur demande d'un tiers. C'est-à-dire, c'est la même chose que si quelqu'un n'est pas bien, se ramène à Paris dans un service d'urgence, au CPOA par exemple, et dit « Ouais, je suis pas bien, hospitalisez-moi, vraiment je suis pas bien, j'ai besoin d'un séjour, etc. » Il dit « Bon, bah, c'est pas un problème, on va vous trouver une place. » Et donc on le met per éliminant pour dégager une place. Ou bien on demande un arrêté préfectoral. Ouais, voilà, donc on en est là. Alors j'avais, suite à ces alertes envoyées, et puis également à l'article de Caroline Coq-Chaudorge du 4 août sur cette situation dans la Sarthe, j'avais envoyé un mail à la rédaction de Mediapart en leur disant que c'était très bien à eux d'avoir placé en une du club avant-hier, le 30 juillet, le communiqué des soignants de l'EPSM de la Sarthe sur la situation catastrophique de rétablissement. Et qu'on peut penser, même dire, que quelques-uns des signataires de cette tribune sont pour quelque chose dans ce naufrage institutionnel de leur établissement, pour avoir discrédité leur discipline auprès du public concerné, parce que nous, on leur fait plus confiance. Il y a une perte de confiance du public dans le corps des soignants en psychiatrie. Il y a une perte de confiance des familles, des patients, de tous les côtés. À force de négligence, d'abus de pouvoir, de pratiques abusives et dégradantes, et d'internements sinon arbitraires, du moins contestables. On ne peut pas oublier le fait que nous autres, quand on, en prise en charge ou en dehors, quand on protestait pour nos droits, on nous disait, on dit toujours aux gens, d'ailleurs, vous êtes un excès paranoïaque quirulant décompensé. Quand on proteste pour ses droits, on est en excès quirulant décompensé. Bon.
Une pathologisation.
Oui,
de...
voilà. D'ailleurs, les signataires de cette tribune déclarent quel progrès. Qu'ils sont conduits par manque de moyens et de personnel à commettre ce qui s'appellerait couramment des fautes professionnelles. Jamais sanctionnées. Les personnels des établissements psychiatriques ont une impunité de fait en matière de fautes professionnelles, ainsi qu'un permis de tuer sur les malades. Parce que, bon, il n'y a pas de condamnation. Hein. Pas de jurisprudence pénale ou d'assises pour des sorties de malades des pieds devant, alors que les 10 malades auraient dû sortir par voie de marche à pied. Quoi qu'il en soit, la situation de la psychiatrie française est telle que cet été, mesdames et messieurs les journalistes, si vous avez des amis ou des parents qui sont carrément mal et qui sont à confier à de telles institutions, c'est le moment, ça leur fera du bien. Et vous pourrez en témoigner. Soyons un brin cynique.
Mais c'est vrai que Lorsqu'il y a des morts en psychiatrie parmi les patients, enfin parmi les psychiatrisés, ça fait beaucoup moins de bruit dans la presse que quand c'est un soignant.
Ben, un peu mieux que ça, ça ne fait aucun bruit. La presse s'est quand même emparée de problématiques de suicide de personnes, bon, mal en établissement ou en clinique, parce qu'il y avait des ayants droit et que ça a créé de la jurisprudence. Et qu'il y a même eu des condamnations spectaculaires, je dois dire. Il y a eu, je ne sais plus quel établissement, qui a été condamné pour une jeune femme qui a pu se suicider, qui était très mal, à quelque chose comme une somme colossale, 100, 200, 300 000 euros. Hein. Mais cela étant, le prix du suicidant varie d'une juridiction à l'autre, d'un âge à l'autre, puisque nous, on a eu l'affaire Mingual sur 2013 sur Henriet, un ancien président de section de la Ligue des droits de l'homme 8e-17e, 76 ans, qui venait depuis qu'il avait perdu sa femme et qui était tombé très dépressive et qui avait été interné en novembre 2013 en périliminant à Henriet sur le 13e pour l'empêcher de se suicider. 17 jours après, il a pu se suicider. On lui avait restitué sa ceinture et donc, dans la chambre qui lui avait été attribuée, dans le coin salle de bain, il a pu se suicider. Donc, on a obtenu une condamnation indemnitaire, le constat d'irrégularité de l'internement qui n'était pas formellement régulier. En tout, il y avait eu 17 000 euros d'indemnisation. Donc, et là encore, c'est parce qu'il y avait une ayant droit. Maintenant, quant à des patients qui surdosent ou sur un étouffement, ou comment sur...
Par rapport à la contention aussi.
Oui, c'est ça, les morts de la contention. Oui. Il n'y a de jurisprudence que si la personne est rescapée a pu faire de la procédure, et que, en cas de mort, en cas de décès, que s'il y a des ayants droit. Bien. Donc ça suppose que le malade ou la malade est encore une sociabilité. Qu'il y a encore un entourage pour soulever la question. Non, mais c'est pas pour rien que les morts de faim des hôpitaux psychiatriques français, ça a été étouffé pendant longtemps après la Deuxième Guerre mondiale.
Dans les années 40, oui.
Ça a été étouffé. Oui. Alors, la chance qu'on a eue sur ces affaires, c'est que, si je puis dire, la chance entre guillemets, c'est que le plan action T4 de l'Allemagne nazie, de 40-41 jusqu'en 43-44, non seulement en Allemagne, mais également en Europe centrale, fait, je pense, dans les 300 000 victimes à peu près, parce que ce n'est pas seulement en Allemagne, ce plan d'élimination des anormaux a pu être statué au tribunal de Nuremberg. C'est-à-dire que ça a été mis à jour, quoi. Donc, alors, c'est une chance dans la malchance, parce qu'au moins une juridiction internationale de type militaire, d'ailleurs, bon, a pu en parler. Non, ça pose un véritable problème, puisque on est mal avec cela, on est vraiment mal. Alors, dans cet article de Caroline Coq-Chaudor, de Mediapart, celle-ci reprend l'appel des soignants, bien. Et puis, on passe d'une alerte du club, de la partie club, à la partie journal, la partie noble de Mediapart.
Oui.
Alors là-dessus, moi, j'avais casé un commentaire sur cet article en disant, le 4 août, on en appelle aujourd'hui à la solidarité régionale, mais l'Agence régionale de santé a mis du temps à nous prendre au sérieux. Je cite la docteure Violaine Pio-Gloria, vice-présidente de la CME de l'EPSM de la Sarthe. Les problèmes de la psychiatrie et cette discipline ne sont pas sérieux, dis-je. Sauf en cas de faits divers sanglants relayés par des médias liés à des politiques en mal d'hystérisation sécuritaire. Alors là, ça y va. Hein. Par ailleurs, les soignants interviewés disent clairement qu'ils sont hors la loi dans leur pratique même. Il est vrai que dès lors où il s'agit de malades mentaux ou de personnes recrutées comme telles et parquées souvent à vie dans cette filière d'exclusion médicalisée, le droit, on sait ce qu'on en fait dans ces institutions. À noter que les recrutements de pères aidants professionnalisés, de médiateurs de santé pairs, de patients ou anciens patients recrutés sur la base d'une formation par un diplôme universitaire spécifique battent leur plein. Main d'œuvre à moindre coût, pouvant être réhospitalisés sans plus de garantie, c'est tout de même très douteux. Je signale qu'il y a ça en parallèle, hein, puisque bon. Et puis donc, après, il y a eu la valse des commentaires. Mmh. Alors, qu'en dire? Qu'en penser? Est-ce que on est là dans une situation, favorable pour les droits des patients?
On peut se poser la question, effectivement, mais on en est loin, apparemment.
Oui. Pause.
Radio Libertaire, toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie avec le CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la psychiatrie. André Bitton, rebonjour André.
Oui, alors rebonjour. Donc, quand on reprend la présentation de son bouquin qui sort donc après-demain, avec une présentation le 7 septembre, la librairie, ça il faut y être, hein. Le 7 septembre, alors attendez voir, librairie L'Atelier, 7 septembre à 19h30, 2 bis, rue du Jourdain, Paris 20e, soirée de lancement du livre. Je pense qu'il faut y être, quitte à se regarder en chien de faïence avec certains, mais ça ne changera pas, hein, ce sera comme d'habitude. Alors un extrait, alors d'abord c'est quoi les thèses de Mathieu Bellassène? Le docteur Mathieu Bellassène, en tant qu'il a été déposé de ses fonctions de médecin-chef d'Asnières à l'EPSM de Roger Prévost-Moisselle en juillet 2021, suite à un conflit avec sa direction et des gens anciennement de son équipe, son propos c'est la mise ensemble des pratiques de psychothérapie institutionnelle et de respect des droits des patients. Donc, mettre ensemble cette problématique de soigner l'institution, donc d'avoir une équipe et un environnement qui soit en soi thérapeutique, avec la mise en avant des droits des malades. Or, jusqu'à présent, ça n'avait pas été considéré comme tellement compatible, hein, jusqu'à présent. Donc, cette mise ensemble de deux regards qui, historiquement, ont été en France conflictuels, hein, antithétiques l'un à l'autre, c'est quand même très intéressant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été finalement tellement conflictuel que, paf, il a été prié d'aller se revoir ailleurs, ce médecin. Donc, d'abord, c'est très combattu. La thèse, les pratiques de psychothérapie institutionnelle sont très discréditées à travers le pays. C'est fort dommage, puisque la moindre des choses, pour des personnes qui sont en cours de prise en charge, c'est de considérer que l'environnement et la façon dont la prise en charge est organisée doit être soignante. C'est la moindre des choses. Moi, pour avoir été moi-même en file active et avoir quand même décompensé une atteinte quand même carabinée, je dois dire, et avoir travaillé dessus pendant des années et mobilisé des tas de gens, j'ai quand même eu la chance d'être sur un secteur où je pouvais mobiliser des soignants. Je pouvais arriver et dire « Ouais, je ne suis pas bien, accordez-moi un entretien », puis passer une heure trente à déballer mon sac et avoir des réponses et à me sentir mieux. Vous voyez, donc cela, c'est quand même la moindre des choses. Et que l'on respecte vos droits en tant que patient, tout en ayant un effet cadrant, c'est quand même très intéressant. Bon, voilà. Donc, en tout cas, lui, c'est ce qu'il entend développer. Donc alors, extrait de la quatrième de couverture de ce bouquin. La contention mécanique n'est pas un soin. Elle n'a pas de dimension thérapeutique. Elle est une mesure de contrôle, une pratique d'entrave et d'immobilisation. Son abolition, l'abolition de la contention, est une première pierre pour une psychiatrie partant des droits effectifs des personnes, de l'autodétermination, de la dignité pour toutes et pour tous. C'est là où on voit que les mouvements actuels de protestation en psychiatrie, les miens, les nôtres, celui-là, ce sont des mouvements de protestation pour la dignité. En réalité, ce n'est pas seulement quantitatif, c'est une question de dignité. Et ça, c'est extrêmement important. En fait, c'est assez nouveau, d'ailleurs. La contention mécanique est un traumatisme. Chaque année, 10 000 personnes sont attachées dans les hôpitaux psychiatriques français. Le phénomène est massif dans les EHPAD, aux urgences, dans les foyers. Le système contentionnaire qui nous attache physiquement, psychiquement et collectivement croît sur fond d'une culture de l'entrave. Se défaire d'un tel univers nécessite d'entendre le vécu des concernés, d'instituer d'autres façons de se tenir ensemble pour développer des alternatives dans les pratiques et un autre imaginaire de la société. Enfin, quand il dit un imaginaire de la société, il veut dire qu'il faut bien rêver, quoi.
Voilà.
Rêver, délirer, c'est un peu la même chose. Bon, donc il reprend enfin un communiqué qu'il avait passé avec Kim Reflet, président du syndicat de la magistrature dans Libération, je crois que c'était au mois de mars. En 2021, sur les 95 000 personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement, 29 000, enfin à peu près 30 000, ont été placées en chambre d'isolement, 10 000 d'entre elles ont été attachées. Tout le monde le sait, la justice et la santé œuvrent dans la misère. En leur sein, la psychiatrie et la justice civile, celle qui traite en particulier des soins psychiatriques sous contrainte, trinquent particulièrement et par là maltraitent les patients, les justiciables et leur entourage. Dans ce contexte de dépérissement, mais également une époque de détricotage des libertés fondamentales, d'aller et de venir, de manifester, d'association, des victoires juridiques en faveur des droits des patients sont assurément chéries, en l'occurrence ici en matière d'isolement contention. C'est en effet majoritairement avec satisfaction, il y a un peu plus d'un an, qu'ont été accueillis les décisions du Conseil constitutionnel enjoignant le gouvernement de rendre obligatoire le contrôle judiciaire des mesures d'isolement et de contention dépassant une certaine durée, enfin analysées comme des mesures privatives de liberté. Alors que ces pratiques sont considérées par plusieurs textes internationaux comme des traitements inhumains et dégradants, la loi du 22 janvier 2022 modifiant le régime de l'isolement et de la contention en milieu psychiatrique sous-entend enfin que ces mesures ne peuvent plus être vues comme des derniers recours bien traitants. Des méthodes qui laissent des traces. L'expérience de tous du confinement permet facilement d'imaginer ce que peuvent vivre les patients sanglés isolés dans une chambre verrouillée et d'appréhender la violence que ces pratiques portent en elles. Quels qu'en soient les motifs, et bien que visant des personnes agitées, troublées, dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui, diront les textes, d'aucuns ne peuvent plus mésestimer que ces méthodes d'enfermement laissent des traces. Des traces sur le corps du patient, des traces dans les habitudes du soignant, les traces sur la liberté d'agir des deux. De la garantie de ces libertés est fait ce nouveau contrôle du juge. Sauf que nulle garantie il n'y aura aussi peu, pour une raison essentielle, notre misère dopée à l'intelligence des décideurs. La misère sur le terrain. Sans surprise, cette réforme a dû être appliquée à moyens constants, de sorte que les juges, les greffiers et les équipes soignantes bricolent, s'épuisent un peu plus pour essayer de mettre en œuvre un texte écrit avec les pieds, et aux effets bureaucratiques, beaucoup ayant d'ailleurs renoncé à appliquer cette loi. En 2021, sur 95 000, bon, etc., c'est la statistique. On ne peut pas ignorer ce que sortait lors d'un débat télévisuel sur LCP, sur les grands thèmes essentiels, voilà. Il y avait plusieurs, un psychiatre nommé, il y avait quelqu'un du ministère de la Santé, il y avait un économiste en santé retraité, Jean de Kervas-Doué, du prof au CNAM, qui reprenait un peu tout cela et en disant qu'on se tienne, que la judiciarisation, la loi de 2011, la judiciarisation avait été une catastrophe. Ça, c'est des professionnels. Les professionnels avaient d'un côté applaudi pour partie et de l'autre fait une grimace, enfin le représentant, en disant vraiment c'est très grave. Parce que, alors disait-il, cette réforme et le texte d'application sur la judiciarisation n'a été ni respecté ni respectable. D'abord, faute de moyens. Alors, c'est pas si simple, puisque, en fait, la loi de 2011, si elle s'est faite avec quelques embauches au niveau des magistrats, elle s'est quand même fait. Bon, ça a pu se faire parce que la réforme du contentieux des migrants sans titre en CRA, en reculant la date de comparution au JLD de 3 jours à 5 jours, avait dégagé des effectifs en JLD. Bien. Mais on était parti en 2011-2012. En 2012, on était parti parce qu'il y avait. C'était un contrôle à 15 jours, avant que ce soit un contrôle à 12 jours, et la représentation par avocat n'était pas obligatoire encore. Donc on était passé d'à peu près 50, 70 000 mesures à 80 000 mesures. Bon, bref, le dispositif est monté en puissance. Bon. Voilà, donc ça. Et pour de bon, par ailleurs. L'ensemble de ces réformes de type judiciarisation de l'hospitalisation sans consentement et d'isolement contention, le gouvernement a légiféré sans y consentir, donc avec les pieds. Hein, ça court de bon. Bon. Donc, sans surprise, cette réforme a dû être appliquée à moyens constants, de sorte que les juges, les greffiers, les équipes soignantes bricolent, s'épuisent un peu plus pour essayer de mettre en œuvre un texte écrit avec les pieds aux effets bureaucratiques. Beaucoup ayant d'ailleurs renoncé à appliquer cette loi. En 2021, bon, donc statistique, des pratiques alternatives à la coercition. La création d'un contrôle judiciaire sur la régularité et la proportionnalité de ces mesures, l'immixtion du juge dans ces couloirs confins et honteux de l'hôpital psychiatrique aurait dû être l'occasion de repenser l'office du juge en cette matière si particulière de la santé mentale, d'inclure les personnes hospitalisées dans les processus décisionnels, en permettant notamment des directives anticipées de renforcer les pratiques alternatives à la coercition. Ce sont au contraire des formulaires, des trames, des boîtes informatiques structurées, des agendas, des tours de permanence, des délégations de signature, des auditions téléphoniques qui supplantent l'analyse, l'écoute et le soin. Le greffier esclave, le juge pantin, l'infirmier maton, le médecin cachetonneur sont savamment mis à l'épreuve au détriment des mêmes, des personnes enfermées et entravées. L'indigence des décideurs. Depuis 3 ans, à l'occasion de ces décisions en cascade du Conseil constitutionnel, le gouvernement refuse, Mathieu Bessin a parfaitement raison, hein, moi je l'avais souligné également, le gouvernement refuse d'avoir un débat d'ampleur sur ces pratiques coercitives et n'apporte qu'une réponse exclusivement technique, procédurale, à ces mesures traumatisantes pour les personnes qui y sont soumises. Alors que de nombreux pays et instances internationales sont sur le chemin de l'abolition de la condition mécanique et de la décroissance des mesures d'entrave. Ça, c'est pas si simple, hein. Moi, je nuance, hein, ce qu'il dit. Sont sur le chemin. Certains l'envisagent, c'est pas pareil. La France renforce de son côté le système contentionnaire. Dans l'indifférence des pouvoirs publics français, se développent des maltraitances institutionnelles généralisées, s'expliquant par de nombreux facteurs. Imaginaire sécuritaire prégnant dans la société et dans les soins, pénurie de moyens psychiques et humains pour accueillir les personnes troublées, désintérêt de la psychiatrie pour l'activité de soins complexes, contention financière du service public psychiatrique, contention législative par l'absence de débats éclairés. La surmatérialisation des sangles et des murs. Dans ce contexte, la France doit-elle se contenter du retour à un fonctionnement asilaire, transformant l'emprise sur les corps des personnes psychiatrisées en soins, ou baptisant cette emprise
plutôt
soins, hein, enfin, euphémisant cela en disant c'est des soins, comme en témoignent les assises de la santé mentale de 2021, si les pouvoirs publics sont désormais plus intéressés par la e-santé mentale et sa dématérialisation, dans les pratiques de la psychiatrie ordinaire, cela se traduit par la surmatérialisation de sangles et de murs. Le Conseil constitutionnel saisi de plusieurs QPC doit rendre une nouvelle décision le 31 mars. C'est une décision de conformité. Ce qu'on voit, c'est que quand on reprend la réforme, la judiciarisation de l'isolement contention, il y a eu plusieurs décisions de censure. Il y a eu des décisions de censure constitutionnelle sur le dispositif lui-même, 2020-2021. Et fin 2021, une décision purement procédurale, de procédure parlementaire, de censure de dispositifs entre autres, comme cavalier législatif, donc comme n'ayant pas à voir avec une loi de finances de sécurité sociale. Les réformes, les deux réformes qui ont été prises par le gouvernement, la première a été censurée, ont été prises dans le cadre d'articles précis du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui comprend 150 articles. Tous les ans, le budget de la Sécu est voté par le Parlement suite aux réformes Juppé de 96. Bien. Et c'est juste un article, une très petite étude d'impact, très sommaire, et pas de débat. Parce que quand on doit débattre de 150, on y va, allez, paf, en avant. À telle enseigne qu'il y a la première réforme, en 2020, la députée Martine Bonner, psychiatre elle-même, très quand même, qui avait rompu, qui avait quitté la majorité, hein, qui s'était inscrite anti-vax durant le confinement, qui a été poursuivie d'ailleurs devant le Conseil de l'Ordre, sur demande du ministre, donc il me semble, hein, il en était question, avait donc renoncé à défendre en séance ses amendements, constatant que le rapporteur et le ministre n'en avaient rien à fiche de tout ça, expédier ça l'avait vite. Non, bon, donc ils ont réformé cela de façon bureaucratique, sans repenser le système. Donc tout cela, c'est absolument scandaleux. On arrive à une situation, on est dans une situation inédite, et en France, de faillite de la psychiatrie publique. Je dois dire que je fais partie des acteurs qui ont amené cette situation, puisque je fais partie des gens qui étaient en cheville ouvrière pour la judiciarisation des internements. Donc moi, je vois ça, d'autant plus qu'on a travaillé avec un psychiatre qui n'a pas arrêté de nous dire, le docteur de la Briolle, que tout ça, ça allait, c'était une faillite, puisque des soignants dignes de ce nom, voulant faire des soins, n'allaient pas accepter de bosser dans des conditions pareilles.
Oui, oui, moins de, on assiste à moins de suivi, moins d'accompagnement et plus de
contraintes.
De contraintes et
d'abandon.
Voilà, d'assignation à ne pas bouger.
De contraintes et d'abandon, car on en est carrément là. Alors maintenant, quand on voit, je suis désolé de le dire, mais quand on voit les thèses abolitionnistes, etc., ben voilà, on est là dans un schéma abolitionniste, mais d'une abolition par les pouvoirs publics. Voilà.
Oui, oui, c'est pas...
Et là, on retombe dans les très vieilles discussions, qui est que les revendications anti-asilaires, antipsychiatriques, enfin antipsychiatriques, etc., récupérées par les pouvoirs publics, sous un angle financiériste et de gestion pure et simple, voilà ce que ça donne.
Voilà, une récupération de plus.
Oui, une récupération. Alors bon, et puis en plus, Mathieu Bellassène et Kim Reflet, ils ont parfaitement raison de dire que normalement, ces réformes auraient dû s'accompagner d'une plus forte présence dans le cours des débats de ce qu'ont à dire les personnes concernées.
Tout à fait.
Là, c'est grande évacuation. Alors, je dois te dire que pour ma part, en regardant l'ensemble de ce paysage depuis une quinzaine d'années, je dois dire que c'est mon idée est quand même bigarrée. Hein. C'est d'un côté, le fait est que nous, qui avons été des chevilles ouvrières à l'époque, on a été mis de côté, puis de toute façon, on ne pouvait pas tenir. Le GIA a explosé fin 2000. Bon, moi, je ne pouvais pas tenir avec une maison comme ça artisanale. Mais le fait est qu'il y a une percée, depuis la décade précédente, des prises de parole des personnes concernées.
Oui.
Il y a une percée. Et ça, c'est les progrès de l'Internet. C'est l'Internet. C'est le déploiement, l'autorisation. Sur la même chose, quand les pouvoirs publics autorisent des prises de parole de personnes, infériorisées, systématiques, mises sous dépendance, à ce moment-là, un certain nombre de ces personnes s'autorisent à parler. Mais il faut toujours, et c'est ça le malheur en France, le feu vert, l'onction du gouvernement. C'est ainsi, j'en suis arrivé à cette thèse, le fait est, les mouvements de patients en psychiatrie n'ont pu se développer qu'avec l'autorisation, le feu vert et l'onction du gouvernement, 96-97, la PNEPSI.
Voilà, et des ARS. Oui.
C'est là où on se dit, mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette mise sous tutelle? Mais qu'est-ce que c'est que ce boxon? Et mon genre d'individu ne peut évidemment, comme mon ancien psychiatre d'hôpital de jour me disait, que passer pour un grave malade agité, perturbateur, difficile, tout ce qu'on voudra, paf. Genre de malade, on n'en veut pas, on les fout à la porte.
Eh bien voilà, si on va conclure comme ça, et ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Nous vous disons à la semaine prochaine. Thank you. et c'est Marc Perron qui nous aura accompagnés durant cette émission. Et maintenant, Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.